la vie de Joseph et Marie et dans la transition qui est là, quoi. Vous savez, des fois, on lit la Bible et puis on ne réalise pas qu'entre un verset et l'autre, il peut s'écouler du temps. Des fois, beaucoup de temps. Nous, on lit, ça fait 0,3 seconde, puis on oublie que quelque part, c'est des vies et il y a des vies qui sont en jeu avec des contextes, des situations, quoi. Et j'aimerais partager cela avec vous. Alors, je ne sais pas si pour vous, tout plane. Je veux dire, si c'était une bonne année pour vous, vous êtes au max de vos compétences, de vos capacités, la mer est plate, le vent est bon, les foils sont bien plantés et vent, vous allez tout droit. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur, louez le Seigneur pour ça. C'est un temps béni. Peut-être que vous avez décidé de traverser l'Atlantique à la rame et puis vous ramez. Je veux dire, voilà, vous êtes en plein dedans, c'est difficile, vous êtes tout seul, vous vous battez contre vous-même, contre les éléments et autres, quoi. Enfin bref, quoi. Voilà, vous êtes là. Ou alors peut-être vous êtes dans le paquebot derrière, en train de siroter un cocktail au bord de la piscine, et en attendant, je veux dire, qu'il y ait eu le repas avec le capitaine qui vienne, et puis que vous puissiez finalement être là, tranquille, en paix, quoi. Je sais pas, c'est vos vies, quoi. La mienne aussi, hein, d'ailleurs. Ou alors, vous êtes en plein, il n'y a plus moyen là. Là, vous êtes juste agrippé à ce qui vous reste et vous vous battez là dans votre situation. Et puis les éléments sont plus forts que vous. Vous maîtrisez plus rien, mais vraiment plus rien, quoi. Et là, vous êtes là à la merci de tout ce qui peut vous arriver. Ou alors, au contraire, c'est le calme plat. Il n'y a rien qu'à bouger. Vous attendez le vent. Vous attendez la direction, ça ne sert à rien de tourner, hein, le gouvernail, vous avancez pas, quoi. Vous pouvez ni aller à gauche, ni aller à droite, quoi que vous fassiez, ça ne bouge pas. Vous pouvez souffler sur la voile, ça ne bouge pas. Il n'y a rien, même pas la pétole. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent quand il y a un tout petit vent. Et donc, il n'y a rien, quoi. Il n'y a juste rien. Peut-être c'est ça dans votre vie, quoi. Et d'une manière ou d'une autre, ben, on va essayer de voir en 2018. Vous pouvez vous retrouver là-dedans. Puis il y a des gens, ils ont tout vécu. Ils ont vécu le calme, ils ont vécu les bons moments, ils ont vécu la tempête, ils ont vécu le calme plat. Ça arrive aussi, c'est des fois un mixte, hein, nos vies. C'est pas une ligne droite, des fois, il y a plusieurs mélanges, il y a plusieurs situations, quoi. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour finalement Marie et Joseph que j'aimerais juste voir. Maintenant, par rapport au contexte dans lequel finalement Jésus est né, bien sûr que nous, on attend tous un super-héros. Hein? Cette année, Disney a fait fort. Ils ont rapporté plus de 2 milliards, les super-héros. Et ça marche très fort parce que dans l'année prochaine, dans leur pipe, ils ont encore plusieurs héros qui vont venir. Spider-Man, il y en a d'autres là qui sont prévus, qui vont venir. Et donc, c'est sûr que ça va être une bonne année, financièrement parlant, pour Disney. Parce que tout le monde attend des super-héros, quoi. Et ce super-héros qui devait venir, eh bien, nous, on l'attend aussi, je veux dire. C'est quelque chose qui est dans la nature de l'homme d'attendre un héros qui viendra sauver la planète de tous les méchants. Et d'une manière ou d'une autre, ben, Ésaïe 9,6, hein, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alors, combien de nous, dans cette année, quand vous étiez dans le naufrage, en train de vous accourir comme ça, Dieu tout puissant, t'es où? Comprenez, c'est naturel. Et on est dans ces attitudes-là. Mais voilà, nous, on est humainement, on aimerait que Dieu il montre sa puissance, qu'il montre son autorité, qu'il vienne dans nos vies avec puissance maestra et qu'il impose finalement que j'ai raison. Non, excuse-moi, lui, il a raison. Mais enfin, si j'ai un peu raison avec lui, c'est bien. Vous comprenez? Et on est là dans ces attentes qui sont là, dans cette attente qui est là, et ça, c'est notre désir. Mais nos pensées ne sont pas forcément ses pensées. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'il faut lire quelques chapitres plus loin, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la grotte. Il n'y avait pas de place dans l'hôtel. Beau Rivage était complet. Et tous les 5 étoiles étaient pris, les 4, les 3, les 2, les 1, puis finalement il a fini dans un tout étoile. Et donc, Jésus, il n'y avait rien qui était là. Les rois, quand un prince naît, hein, je veux dire, on attend la prochaine naissance de Meghan, enfin de la maman Meghan et du roi en Angleterre, là, enfin pas du roi, d'un prince. Enfin, il y a des spécialistes pour ça. Alors excusez-moi si je mélange un peu. Mais là, ça va de nouveau être les caméras, tout le monde entier va être au courant, quoi. Et il y a même des gens qui vont parier sur le prénom. Des milliards qui sont en jeu. Ça, c'est le monde, quoi. Dieu, non. Lui, il vient de manière à ne pas frapper les regards, quoi. Il vient parce que Dieu ne vient pas se servir, Dieu, il vient servir. Et c'est une grande leçon de vie, en fait. Si on regarde Joseph un peu dans sa vie, il y a des hommes au milieu de nous qui ont adopté des enfants qui n'étaient pas le leur. C'est ce que Joseph a dû faire. Ce n'était pas son fils, quoi. Puis il lui a fallu un ange spécial qui lui dise: Oh, Joseph, t'emballe pas, c'est le mien. Et tu vas être son père. Et tu vas t'occuper de lui. Ouais, mais Seigneur, quand même, je veux dire, moi j'ai une affaire à tourner, j'avais un plan de vie avec Marie, je voulais aller faire ci, je voulais faire ça, ici et ça, tu viens tout foutre en l'air, quoi. Eh oui, Joseph, c'est la vie. Des fois, on planifie, on croit maîtriser les choses, on croit faire comme nous on veut. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai que Joseph il est dans cette attitude. Ok, bon ben ok, Seigneur, Marie, je t'accepte comme femme, puis je suis d'accord de vivre ensemble, qu'on n'a pas de relation sexuelle les deux, jusqu'au moment de la naissance de l'enfant que tu portes, quoi. Et puis en plus, c'est même pas moi qui choisis le nom. L'ange, il t'a dit qu'il fallait l'appeler Jésus. Bon, d'accord. Vraiment, hein, il y a vraiment tout pour mal faire. Et en plus, il y a cette espèce de recensement que l'empereur Auguste a dit qu'il faut venir, et puis maintenant je dois bouger depuis chez moi, donc à Nazareth, puis aller à Bethléem. Je dois tout abandonner là-bas avec ma femme qui est au 9e mois, et puis en plus avec un transport d'âne. Je veux dire, je ne sais pas, mesdames, si vous êtes capables de faire 4 jours d'âne au 9e mois. Déjà que ça vous a interdit les avions au 8e. Hein, je veux dire, mais là, Marie, elle n'a pas eu le choix. Hein. C'était mieux qu'à pied, on est d'accord. Mais vous imaginez la chaleur, les situations, je veux dire, difficiles, quoi. Puis moi, je vois mon Joseph qui est en train de tirer l'âne dans les moments difficiles et tout. Alors, c'est pas facile. Seigneur, quand même, tu aurais quand même pu t'arranger pour que le recensement, ce soit quand même il y a 3 mois en arrière. Ça aurait été plus facile, non? Ou alors après. Mais pas maintenant. Tu penses à quoi, Seigneur? Tu vois pas les difficultés dans lesquelles on est? Puis effectivement, je veux dire, c'est difficile, c'est compliqué, quoi. Et puis finalement, il y arrive, quoi. Parce qu'en plus, le voyage, ça coûte. Je sais pas si vous voyagez, mais vous savez que ça coûte, hein. Et donc, voilà, il a fallu aller à l'hôtel, il a fallu pourvoir pour la nourriture, il faut pourvoir pour plein de choses, d'une manière ou d'une autre. Donc, le bilan est pas simple, quoi. Et les questionnements. Et en plus, il y a des gens qui sont des spécialistes de la gaffe. Mais vraiment des gros gaffeurs, hein. On n'est pas conscient quand on lit le texte, quoi. Mais vous savez qui sont les gros gaffeurs de l'histoire? Qu'ils auraient jamais dû faire ce qu'ils ont fait. Les rois mages. Alors ceux-là, si je pouvais leur dire 2, 3 conseils, mais n'allez surtout pas chez Hérode pour lui dire où est le roi des Juifs. Parce que c'est un tablard, c'est un fou, lui. Eh non, là, les rois mages arrivent, les planètes sont alignées, c'est parfait. Et effectivement, c'est arrivé en moins 6, au niveau de l'astrologie, pardon, l'astronomie. Ça a été au 18e siècle, ça a changé. Mais en fait, dans les astronomes, à l'époque, c'était des astrologues. Et il y avait l'alignement de 3 planètes qui étaient là. Il y en a même qui pouvaient s'arrêter à un moment donné, puis repartir. C'est ce qui est arrivé, le phénomène. Parce que comme les planètes, elles tournent, mais pas à la même vitesse, il se peut que la Terre, elle dépasse une, puis il y a une planète qui va en avant, puis après, elle revient en arrière optiquement, puis elle revient. Et là, cette planète, elle s'arrête à un moment donné. Et là, les rois mages disent, OK, ça c'est vraiment l'axe dans lequel on est, quoi. Et puis là, il y a effectivement les anges qui viennent et ils découvrent cet enfant, je veux dire, dans une étable, une grotte qui est là, parce qu'il y en a pas mal à Bethléem, et puis où Jésus naît. Et voilà les mages qui viennent, puis qui leur donnent l'or, l'argent, la myrrhe. Alors symboliquement, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement ces mages sont là, ils sont avertis de ne pas retourner vers Hérode, puis ils retournent, quoi. Et puis, finalement, d'une manière ou d'une autre, dans la vie d'Hérode, c'est un petit peu compliqué quand même. On verra ça juste comme ça, quoi. Le verset sur lequel je suis, c'est Matthieu 2, 10. C'est à un moment donné, Dieu il dit à Joseph: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Ce jusqu'à ce que je te parle, à votre avis, ça a duré combien de temps? Non, quand il faut l'imaginer, hein, il est parti en Égypte, quoi. C'est un réfugié, il a traversé, il est là-bas. Je veux dire, ok, et jusqu'à ce que je te parle. Combien de temps ça a duré, à votre avis? Parce qu'il est retourné à Nazareth une fois que Hérode est mort. 2 ans. On pense, les spécialistes pensent entre 1 année et 2 ans. Pourquoi? Parce qu'Hérode, il est donc Jésus est né à moins 6. Donc Jésus est donc né à moins 6, puis Hérode, il est né en moins, il est mort en moins 4. Donc on pense qu'au moment jusqu'où Hérode est mort, eh bien, il s'est écoulé à peu près 1 année à 2 ans pour les spécialistes comme ça. Donc 1 année à 2 ans où Joseph a dû vivre. Lui, quand il est allé à Bethléem, il pensait retourner à Nazareth, retrouver son commerce, retrouver sa famille, retrouver ses habitudes. Et là, tout d'un coup, Dieu lui dit, non, c'est pas fini le voyage. Non, mais attends, tu trouves ce qui est déjà pas assez dur, ce que je vis maintenant, pour que tu en rajoutes encore une couche. Et Joseph, effectivement, je veux dire, lui dit, non, c'est pire maintenant. Comment ça, c'est pire? Ben oui, la montagne. On va pas contourner le truc, quoi. Alors, on va contourner, mais ce sera quand même la montagne. Et effectivement, Joseph doit partir. Il a eu le temps d'aller au temple, ça c'est Luc qui nous le dit, pour aller présenter finalement Jésus, selon la loi juive. Et puis, bon, les mages sont partis. Et puis, voilà que lui reçoit l'ordre et il prend cet enfant et puis il part. Hérode, il a une réaction qui est tout à fait normale quand on connaît le personnage. Il a décidé de tuer tous les enfants sous sa juridiction de 0 à 2 ans. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de roi en dehors de lui. C'est un malade. Malade de pouvoir. Des gens qui s'accrochent et puis qui sont prêts à tout. Et je vais vous montrer Hérode jusqu'où il a été pour le pouvoir. Vous voyez, ici Hérode, c'est trop petit pour vous, mais moi j'avais besoin juste pour mes notes. Quoi. Ici, vous avez Hérode. Là, il y a 10 femmes. Il avait 10 femmes, Hérode. Hein. Donc juste comme ça. Quoi. Et puis là, de celle-ci ici, il a eu des enfants. Qui sont là. Ses enfants, ça a été une source de misère. Surtout celui-là, son aîné. Antipater. C'est presque antipathique. Mais je veux dire, c'est antipater, quoi. Et ce antipater, ça veut dire ce que ça veut dire. Antipater. Hein, déjà, son nom, il montrait comme quoi, en latin en tout cas, il était contre le père, quoi. Donc, antipater. Celui-ci ici, avec Doris, à un moment, vous savez, il y a des crises de jalousie. Il y a des tensions qui sont là. Et Doris, ici, avec son aîné, elle s'est dit, il faut absolument que je réussisse à placer mon fils dans les starting blocks pour que lui, il redevienne roi, quoi. Gros problème. C'est que la deuxième épouse, qui s'appelle Mariamné, avec ses 2 enfants, Aristobule, puis Alexandre, Aristobule, il faut déjà y aller pour l'appeler comme ça, mais enfin, Aristobule et puis Alexandre, ils sont là, c'est les 2 fils. Et la femme préférée de Hérode, c'était Mariamné. Avec ses 2 fils. Donc, dans la pensée d'Hérode, c'était de pouvoir favoriser ses 2 enfants pour reprendre la royauté. Donc, ce fils ici, il a manigancé des choses pour faire tuer ses 2 frères, enfin, demi-frères, et faire bannir, en fait, aussi tuer la maman. Donc, il a fomenté tout un trouble, toute une manigance avec différentes choses pour arriver à faire tuer sa femme, donc sa préférée et les 2 enfants. Et il y est arrivé. Hérode a tué sa femme ainsi que ses 2 fils sur instigation de révolte, comme quoi ils allaient prendre le pouvoir. Maintenant, on sait toutes les histoires au travers de quoi. Qui c'est qui connaît Flavius Joseph? Flavius Joseph, c'est un historien juif qui a passé du côté grec et qui nous donne tout le contexte jusqu'au moment de la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi de la naissance de Jésus. Il en parle d'une manière ou d'une autre. Et c'est au travers de lui qu'on connaît toutes les histoires de ce qui s'est passé, la mort justement de ses enfants. On ne trouve pas ça dans la Bible. Mais pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel finalement Dieu est né en Jésus avec cette famille, c'était compliqué, c'était pas favorable politiquement, vous comprenez ? C'était une situation difficile et ça ne joue pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la mort d'Hérode, il y a eu des révoltes de juifs. Il y a eu 6000 juifs qui ont refusé de prêter serment, juste quelques années avant, qui ont refusé de prêter serment, c'était des pharisiens. Et ils ont fait finalement un complot contre Hérode et il les a tous tués. Il y a aussi eu, d'autres velléités d'aller contre Hérode, il les a tous tués. Et c'est quelqu'un qui était malade de pouvoir, d'ailleurs Flavius Joseph le dit lui-même, comme quoi il était vraiment un dictateur malade de pouvoir et de contrôle. au point de pouvoir tuer finalement ses enfants sur différentes instigations. Ce qui se passe, c'est que au moment où la famille, elle part pour aller en Égypte, ça a été la guerre civile et la catastrophe totale dans cette région-là. Il y avait des factions. Hérode, avant de mourir, il est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Et c'est Flavius Joseph qui nous décrit la souffrance d'Hérode avant de mourir. Dieu voulant faire souffrir à Hérode la peine de son impiété, sa maladie augmenta toujours. Une chaleur lente qui ne paraissait point au dehors le brûlait et le dévorait au dedans. Il avait une faim si violente que rien ne suffisait pour le rassasier. Ses intestins étaient pleins d'ulcères. De violentes coliques lui faisaient souffrir d'horribles douleurs. Ses pieds étaient enflés et livides. Ses aines ne l'étaient pas moins. Les parties du corps que l'on cache avec le plus de soin étaient si corrompues que l'on en voyait sortir des vers. Ses nerfs étaient tout retirés. Il ne respirait qu'avec grande peine et son haleine était si mauvaise que l'on ne pouvait s'approcher de lui. Tous ceux qui considéraient avec un esprit de piété l'état où se trouvait ce malheureux prince demeuraient d'accord que c'était un châtiment visible de Dieu pour le punir de sa cruauté et de ses impiétés. Tout ça pour vous dire qu'il y a un contexte terrible. Et que le bilan, si on veut regarder au niveau politique, au niveau économique, au niveau situation, il n'y avait rien qui était favorable pour Joseph. Mais Dieu, qui connaît ce qui va arriver, quand il donne l'ordre à Joseph et à Marie de partir en Égypte, lui, il savait tout ce qui allait arriver dans cette difficulté. Mais du côté de Joseph, vous voyez, ce n'est pas facile. C'est compliqué. On ne comprend pas des fois où mènent nos vies. Parce que Dieu, il sait qu'il y a peut-être des choses encore plus difficiles qui vont venir. Et cette situation difficile qui était dans ce coin-là, Dieu a dit, « Ok, je t'envoie en Égypte au lieu de te renvoyer à Nazareth parce que ce qui va arriver après la mort d'Hérode va juste être terrible, tu ne le maîtrises pas. » Mais si je me mets du côté de Joseph, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas des emails, il n'y avait pas la communication instantanée où on a directement les caméras avec Instagram, où on peut savoir tout ce qui se passe. Je veux dire, lui, il ne sait pas ce qui se passe en Palestine. C'est plus tard quand tout d'un coup Dieu lui dit, écoute, voilà, jusqu'à ce que je te parle, eh bien, quand je te dirai, puis que les choses seront apaisées, va venir. Effectivement, ça va s'apaiser après, quand Auguste aura donné à Archéalus les rois et les différentes choses, il a réparti ça en trois, Auguste, et puis en même temps, Varus, qui était le gouverneur de Syrie, est venu mettre de l'ordre et a apaisé toute la Palestine. Là, c'était apaisé. Et quand c'était apaisé, puis que les Romains de nouveau avaient leur pouvoir, à ce moment-là, Dieu, il va dire à Joseph, « Ok, c'est bon, rentre. » C'est bien. Mais si on veut regarder entre le moment où Joseph doit partir depuis sa grotte pour aller en Égypte, il ne sait pas où. Comment est-ce qu'on peut faire le bilan de sa situation à ce moment-là? Franchement, si on regarde sur le contexte social dans lequel il est, c'est franchement défavorable. Si on regarde le contexte politique dans lequel il est, ça va être encore pire. Alors, Dieu, il a protégé son fils et il l'a éloigné de tout ce tumulte et l'a mis en Égypte pendant un moment pour le protéger et le garder. Mais c'était vraiment défavorable, tout ce contexte politique qui allait venir en plus, que je vous ai lu là en gros, hein, je dirais, puis décrit. Si vous voulez, vous pouvez le lire après dans un de ces livres, quoi. Le contexte spirituel, c'était pas clair non plus parce qu'il y avait quatre grandes sectes juives. Et puis, ils ne s'entendaient pas entre eux, ils se faisaient la guerre entre eux, et c'était compliqué. Et puis pour Joseph aussi, de se dire, mais moi je fais quoi? J'ai reçu, je veux dire, des choses incroyables de la part de ce qui allait venir, mais finalement, entre les promesses qui sont absolument glorieuses et extraordinaires, et puis ce que je vis, il y a un décalage. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, que tout d'un coup Dieu vous a fait des promesses, puis entre ce que vous vivez, puis les promesses de Dieu, vous dites, bah, attends, il y a un univers. Mais Joseph, il était là. On sait qu'il y a eu les prophéties de Marie, il y a eu les prophéties de Anne dans le temple, et puis de Siméon aussi, qui ont annoncé des choses extraordinaires sur cet enfant. Mais entre ce moment de déclaration et puis le moment où les choses vont se passer, eh ben, il y a des moments difficiles, il y a des tunnels, il y a des grandes difficultés. Comprenez? Ça nous arrive aussi dans nos vies, qu'il y a des décalages comme ça. Donc ces décalages qui sont là, je veux dire, Dieu, il le connaît. Mais des fois, il nous permet de passer par des chemins difficiles parce qu'il sait qu'il y a peut-être des chemins encore plus difficiles autrement. Comme pour Joseph, va en Égypte. Ouais, mais Seigneur, j'ai pas envie, moi j'ai envie de retourner là. J'ai envie de continuer mon travail, j'ai envie de reprendre mes activités, j'ai envie de revenir. Non, 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 c'est pas le bon moment pour toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Va en Égypte. Là, tu seras en paix et tu seras calme. Puis, je veux dire, finalement, Joseph, il se dit, ouais, mais moi, je vais vivre de quoi là-bas, en tant que réfugié? Comment est-ce que je vais être accepté? Comment je vais trouver du boulot là-bas? Comment les choses vont aller? Où est-ce que je dois aller? Vous comprenez ce genre de questions? Va. Et des fois, dans nos vies, Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne nous révèle pas tout. Dieu ne nous montre pas tout. Mais il dit, va. Et c'est quand on va que tout d'un coup, les portes ou les chemins peuvent se faire. Et ce n'est pas évident. Mais ça demande de la confiance. Ça demande de dire, ok Seigneur, je t'obéis. Sur ta parole, j'y vais. Et Joseph fait ça. Maintenant, c'est le problème économique. Vous allez, de quoi ils vont vivre, à votre avis? Des cadeaux. C'est génial, hein? Quand tout d'un coup, Dieu il dit, ok, tiens, je te donne l'argent, vas-y. C'est ce qui est arrivé. Ils ont eu l'or, l'argent, la myrrhe. Et ces présents sont des présents royaux et ils ont une grande valeur monétaire. Et donc Dieu a pourvu pour le voyage, au travers des mages qui ont mis les pieds dans le plat. Mais bon, on peut leur pardonner, parce que ça a été un bien. Et donc effectivement, Joseph, avec son or, son argent, sa myrrhe et tout, il a pu partir, et puis probablement qu'il a dû négocier ça pour pouvoir vivre après, je veux dire, de ce moment de réfugié. Donc franchement, ça allait peut-être pas trop mal, mais sur le moment, ce n'était pas du tout évident par rapport à toutes ces questions. Donc, si on reprend une fois qu'il est en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, c'est sûr qu'il a été dans le contexte social. Il y a une année de migrants. Dans le contexte politique, il était en Égypte en attendant que ça se calme en Israël. En Égypte, c'était assez calme, ça allait bien à ce moment-là. Et puis, le contexte spirituel, il est favorable et défavorable, dans le sens que probablement il a rejoint d'autres communautés juives qui étaient là-bas, parce qu'il y en avait en Égypte, hein, on le sait par les écrits de l'île Éléphantine et ailleurs. Il y avait des grandes communautés juives qui vivaient en Égypte. Et probablement qu'il a dû en rejoindre une, et puis pouvoir se regrouper, et puis vivre chose. Alors, en fait, il y avait les divinités égyptiennes, mais il y avait aussi les Grecs, il y avait tout un panthéon, c'était un mélange encore à l'époque, parce que l'Empire égyptien était tombé, et puis c'était plutôt les Grecs et les Romains qui étaient là. Donc, il se retrouve dans un contexte un peu le même qu'en Palestine. Mais oui, il peut se retrouver quand même et vivre ça. Puis le contexte économique, ça va, on pense que ce qu'il avait comme argent lui permettait de vivre. Jusqu'au moment où Dieu lui parle de nouveau, puis lui dit, ok, retourne. Après, effectivement, il y a à peu près 28 ans où les choses vont aller normalement dans la vie de Jésus. On n'a pas beaucoup de textes dans la Bible qui nous disent ces choses-là. Je vais conclure en illustrant un peu les propos. Quand Joseph va à Bethléem pour se faire recenser, il ne sait pas ce qui va arriver. Il n'a aucune idée. Il est perdu. Il sait qu'il doit le faire parce que les obligations extérieures à lui l'obligent à aller. Sa femme accouche. Et puis en plus de ça, je veux dire, le contexte veut que cet enfant va être persécuté. Donc il faut le mettre à l'abri. Il doit fuir Joseph. Marie aussi. Pour Marie, ce n'est pas facile. Pour Joseph, ce n'est pas facile. Et tout d'un coup, ils vont être étrangers, quoi. Et Jésus va apprendre à marcher, Jésus va apprendre à parler pendant les 2 ans où il sera en Égypte. Est-ce qu'il parlera l'Égyptien? J'en sais rien. Je veux dire, en tout cas, c'est sûr qu'il parlera l'hébreu. Et effectivement, ben voilà, ils font le travail. Jusqu'au moment où Dieu dit, mais quand vous attendez 1 année, 2 ans sur les réponses de Dieu, ça peut être long. C'est-à-dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas de nouveau finalement me ramener? Quand est-ce que je pourrai revenir? Il y a des périodes dans nos vies, il y a des temps compliqués. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu vous a fait des promesses ou que Dieu fait des choses extraordinaires que nécessairement tout va bien aller comme vous le voulez. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on soit dans ce que Dieu veut, lui, et pas ce que nous, on veut. Et le résultat, il est là. Dieu, il connaît des contextes que Joseph, il ne pouvait pas savoir. Tout ce qui allait arriver dans cette période de 2 ans, comme difficulté sur le terrain, à Nazareth et dans tous ces endroits-là, Dieu savait et il ne comprenait pas. C'est qu'au moment où après dans l'histoire, il a pu apprendre qu'il a compris, finalement c'était une bénédiction, cette traversée de désert, cet éloignement, c'était une grâce. Des fois dans nos vies, on ne réalise pas toujours que dans les bilans qu'on a de nos vies, peut-être qu'il nous arrive quelque chose dans nos vies, c'est une mise à l'abri Mais nous, on ne le voit pas comme tel, on le voit comme une punition ou comme autre chose. Mais Dieu, il sait, Dieu, il connaît. Et à nous de faire confiance, à nous de lui faire confiance dans ces moments où nous ne comprenons pas le plan, où nous ne voyons pas le plan, où nous ne saisissons pas toute la portée de ces choses. Et Dieu nous appelle aussi dans nos vies, de la même manière que finalement Joseph, à faire confiance aussi à ce qui nous arrive, parce que nos vies sont entre ses mains. Et il a son plan. Et parfois, peut-être que ses plans ne sont pas tes plans. Mais le plus important, c'est que ce soit ses plans qui se réalisent et que tes plans s'alignent à ses plans. Et pour ça, il faut faire confiance. Et pour ça, il faut que la foi soit là. Alors ce que j'aimerais te dire, sois en paix, calme-toi, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Et arrête d'être Dieu à la place de Dieu. Arrête de vouloir tout gérer, tout contrôler, mais fais confiance. Fais ta part. Comme Joseph, il a dû obéir, il a pris son âne, il a pris Marie, il est parti avec Jésus. Il a dû trouver un endroit, Jésus ne lui a pas dit où il devait aller, enfin Dieu, il n'a pas dit où il devait aller spécialement, quoi. Il a dit va, et il est allé. Et c'est au fur et à mesure que les choses se sont débloquées, mises en place, jusqu'au moment où 2 ans plus tard, Dieu lui dit « Ok, tu peux retourner ». Puis là, de nouveau, il a voulu aller à Jérusalem, puis quand il a vu que c'était Archéalus, puis il le connaît aussi, il a dit « Non, moi je ne vais pas aller là, je vais retourner à Nazareth ». Et là, il prend la décision de retourner à Nazareth, et là, il reprend sa vie. Et il est effectivement charpentier, menuisier, et il travaille dans son échoppe et il retrouve ces choses. Je vais terminer par 3 recommandations qui sont valables pour Joseph, qui lui a pratiqué, mais que nous on doit aussi. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous êtes vivant? Alléluia. Je veux dire, vous avez un toit, vous pouvez vous nourrir. Vous avez l'essentiel. Franchement. On peut toujours, dans notre société, réclamer, ouais, mais si j'avais le iPhone 10, le 11 même, ou si j'avais une voiture ceci, ou si j'avais une maison cela, ou si j'avais des vacances ceci, ou si j'avais la promotion au niveau du travail, ou, et on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Vous savez, plus on se focalise sur ce qu'on n'a pas, plus on est malheureux. Donc soyez heureux. Ne vous focalisez pas. Faites confiance à Dieu, quoi. Donc arrêtez, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Je vais vous prêcher une fois sur ce qu'on appelle la collapsologie, mais ça c'est un autre sujet par rapport aux valeurs de notre société où on ne croit plus au matérialisme aujourd'hui. Soyez reconnaissant pour ce qui va dans votre vie plutôt que de vous plaindre de ce qui ne va pas. Joseph avait de quoi se lamenter, Joseph avait des difficultés, mais ça n'aide pas, vous comprenez? Le mieux c'est accueillir les choses quand elles sont ce qu'elles sont. La réalité, elle est dure, on ne peut pas la changer. Accueillez cette réalité et demandez à Dieu de vous aider à trouver le chemin pour améliorer, changer et sortir de ces moments. Mais ne vous focalisez pas. C'est un peu comme les Égyptiens qui disaient « Ah, mais finalement, quand on est dans le désert, on était mieux en Égypte, on était mieux là. » Non, vous n'étiez pas mieux, c'est différent. Ce n'est pas le même temps. Dieu veut vous donner quelque chose de particulier. Donc, soyez reconnaissant pour ce que vous vivez déjà maintenant. Alléluia. Soyez reconnaissant pour où vous allez plutôt que de regretter par où vous avez dû passer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2018. Bonne, mauvaise, moyenne année. Focalisez-vous pas là-dessus. Apprenez et Dieu a encore du chemin pour vous. Dieu a encore un plan dans vos vies. Dieu désire encore vous accompagner tout au long de 2019. Amen. Alors, au travers de tout cela, au travers de la Bible, au travers de cette histoire de Joseph et de Marie, Joseph a dû accepter, accueillir, soutenir, prendre soin, contre les circonstances, contre les situations. Il n'a pas pu faire ce que lui voulait. Il a fait ce que Dieu voulait. Mais en faisant ce que Dieu voulait, il a accompli pleinement son destin et sa vie. Et je suis sûr qu'il a été heureux, ainsi que Marie. Et ça a permis à Jésus de grandir dans un cadre sécurisé, dans un cadre calme, et où les choses se sont faites jusqu'au moment où il a pu rentrer dans son ministère. Et c'est un exemple. Alors si vous êtes dans des situations compliquées, difficiles, conflictuelles, opposées, ou des choses qui vous frustrent, ou des choses que vous ne maîtrisez pas, j'aimerais vous encourager à faire confiance à Dieu et de le laisser lui prendre soin de vous et de vous accompagner dans cette année 2019. C'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas un ordre. Mais je vous encourage. Ayez foi. Dieu est avec vous. avec chacun de vous. Amen.